L'association Les Nouveaux Terriens vous propose une rencontre avec l'atelier paysan qui a eu lieu fin 2021 à la librairie Tartinerie de Saran dans le Gers. Deux paysans, Jean-Claude Barbeau et Emmanuel Haz, parlent du livre manifeste collectif « Reprendre la terre aux machines », manifeste pour une autonomie paysanne, édité aux éditions du Seuil. Cette émission est la première des deux parties qui composent cette rencontre. Hélène Bustos de la librairie Tartinerie nous présente leur intervention.
Oui, on va commencer si vous voulez bien cette petite soirée. Donc voilà, tout le monde est là. Merci d'abord à vous d'être venus. Donc cette rencontre de ce soir est proposée par la librairie Tartinerie. Alors, on est très content d'accueillir nos deux intervenants, qui seront deux ce soir, parce que, outre l'occasion de faire venir des amis qui, pour certains, viennent de loin, mais ils se présenteront, ça nous a semblé important de faire parler de ce petit objet, pas de l'objet en tant que tel, mais de ce qu'il contient, donc de ce manifeste. Rapidement, voilà, moi j'avais juste envie de dire que ça fait plus ou moins longtemps qu'on touche du doigt les difficultés, les impasses dans lesquelles on est toutes et tous engagés en matière d'inégalité, qu'elle soit sociale, environnementale ou autre. Y compris dans l'environnement dans lequel on évolue, nous, les questions de difficultés d'accès à l'alimentation de qualité se posent, et ici comme ailleurs, celles de difficultés d'accès, des problématiques d'accès à la terre, d'industrialisation de l'agriculture sont palpables. L'ouvrage dont on va parler ce soir tente et réussit, à mon sens, la synthèse des constats, et il va bien au-delà de ça. Il donne aussi des éléments sociaux, historiques, enfin tout un tas de données qui apportent pour comprendre ce qu'on vit, et il va même encore plus loin dans le sens où il y a des pistes d'action, ou en tous les cas des propositions qui nous a semblé important de mettre en débat collectivement. Pour infléchir le cours d'une histoire à laquelle on n'a pas envie de participer ou qu'on n'a pas envie d'écrire. Juste très rapidement, je voulais un peu dire comment ça va se dérouler ce soir, enfin la proposition qu'on avait envie de vous faire. Je vais juste reprendre trois lignes du début de la cinquième partie où vous écrivez. Les mouvements sociaux victorieux ces deux derniers siècles montrent qu'une transformation sociale ne peut résulter que de la conjugaison de trois efforts. Le rapport de force, la présence d'alternatives et l'éducation populaire. Donc je vais passer la parole, vous vous débrouillez. Donc Jean-Claude Balbeau, Emmanuel Haz, voilà, vous vous présenterez. Et puis,
Okay. Je suis un paysan retraité, un éleveur retraité, un paysan, j'aime bien le dire comme ça, un paysan émérite, parce que ça fait souvent interpeller les universitaires qui s'intéressent à l'agriculture et qui ne s'imaginent pas un instant qu'un paysan peut revendiquer les mêmes titres qu'eux. Mais on m'a enlevé mes bêtes il y a déjà une dizaine d'années, donc je ne suis plus éleveur, mais je revendique le titre, l'état de paysan. Alors, moi j'étais éleveur dans le Finistère pendant 40 ans, on a fait du lait puis de la viande en bovin, en vache. Vaches allées et vaches allaitantes, essentiellement en circuit court, en vente directe, après transformation, et sous signe de qualité pendant les premières années. Enfin, revendiquant des signes de qualité pendant les premières années, pour les avoir même, puisque ça date des années 75-77, pour les avoir même mis en place, parce que le signe AB, c'est les années 90, nous revendiquions des attaches de Nature et Progrès. Je ne sais pas si certains connaissent Nature et Progrès. Ouais. Si tu veux te présenter, Manu.
Donc, quant à moi, je suis arboriculteur en Lot-et-Garonne, depuis une vingtaine d'années. C'est sur des vergers qui me préexistaient, puisque l'agriculture a sauté une génération dans ma famille. Et sur des vergers, par ailleurs, que je suis en train de reprendre à zéro, dans la mesure où je me suis retrouvé au milieu des années 2010, coincé dans une espèce de tenaille. D'un côté, les premiers effets du dérèglement climatique, avec des nouveaux insectes sans prédateurs à ce jour, des transformations du biotope du type de la sédentarisation des palombes, par exemple, qui ne migrent plus ou de moins en moins, et qui se composent d'un nouveau régime alimentaire qui s'est trouvé passé par mes petits fruits au stade durcissement du noyau, là, en mars-avril. Et puis, c'est notre lot à tous dans le sud-ouest, hein, depuis 5 à 7 ans, une multiplication des gelées printanières qui ont fait que j'ai personnellement eu à subir 3 années blanches consécutives sans production, qui ont fini de me convaincre de changer d'espèce. Pour autant, je ne me considère pas comme victime en tant que paysan du dérèglement climatique, puisque les différents problèmes que je viens de citer connaissent des possibilités d'adaptation, hein, des systèmes d'antigel, systèmes de protection contre les oiseaux, ça existe. Mais il se trouve que, et ça c'est l'autre morceau de la tenaille, il se trouve que la production fruitière est prise dans une logique de compétition massivement distordue, dont les distorsions finalement sont organisées, hein, par le marché unique européen et ses règles. Et ces distorsions de concurrence, depuis une bonne vingtaine d'années, ne laissent strictement aucune marge de manœuvre économique pour investir dans le sens de l'adaptation au dit dérèglement climatique et à ses conséquences.
La première chose qui est importante de dire, c'est que ce livre-là, il n'a pas été écrit pour que vous le lisiez. L'Atelier Paysan, c'est une coopérative d'autoconstruction de matériel agricole qui a été créée il y a 10-15 ans, en gros, par des maraîchers de la région de Grenoble, très largement, hein, Rhône-Alpes d'ailleurs plutôt, qui était sous label AB, et qui travaillait particulièrement, qui cherchait des méthodes de travail du type planche permanente, et qui pratiquant les planches permanentes, ne trouvaient pas les outils dans le marché ordinaire de la machine agricole, les outils dont ils avaient besoin. Mais il se trouve que, de fil en aiguille, ils sont allés chercher ces outils, ils sont allés les observer, parce qu'en Allemagne et en Suisse, apparemment, c'était une vieille pratique. Ils sont revenus avec l'idée de les faire eux-mêmes, puisqu'ils n'étaient pas sur le marché, plutôt que de s'adresser à un fabricant pour les faire. Et puis, les premières machines construites, les stages se sont construits de manière un peu... Ça a été un peu très pragmatique au départ, autour des premières constructions de machines. Et très, très vite, donc en 10 ans de temps, ça a pris une ampleur inattendue. On est passé du stade d'une association qui devait s'appeler Adabio, dans mon souvenir, il y en a encore une qui s'appelle toujours comme ça, société coopérative, mais avec un maximum de 99 adhérents possibles. Et comme on en est à 150 aujourd'hui, il a encore fallu qu'on change de statut, on est en train de le faire actuellement. Donc l'histoire brève de l'Atelier Paysan en présentation. Cette force collective qui permet de faire ce genre d'ouvrage, puisqu'on en a rajouté une couche après, tant qu'à faire, dans la foulée, on en reparlera plus tard. Cette force collective-là, qui s'est créée dans une circonstance bien précise, évidemment, hein, puisqu'on parlera de sécu tout à l'heure, la sécu, elle n'est pas née non plus dans n'importe quelle circonstance. Mais ce qui est important, c'est qu'on a la conscience de ça, mais on en a fait la preuve que les capacités d'émancipation qu'on cherche en permanence, elles sont en nous. On n'a pas besoin d'autres personnes venant nous expliquer de quoi doit être fait notre vie. Nos capacités d'émancipation nous sont propres, mais elles n'ont qu'une expression collective. Elles ne peuvent avoir qu'une expression collective. Elles sont multipliées par la collectivité. Et cet ouvrage-là est le témoin de ça. Collectivement, nous sommes des gens très puissants. Et comme nous sommes devant des difficultés énormes en ce moment dans le domaine qui nous concerne, c'est-à-dire celui de l'agriculture et celui de l'alimentation, eh bien, il faut avoir cette certitude-là. Nous devons nous faire confiance les uns les autres, comme on s'est fait confiance, nous, parce qu'il a fallu parfois se déshabiller pour pouvoir écrire ça. Là, 50 dans la salle, 50 hier à Bordeaux, 60 demain à Toulouse, nous sommes plus nombreux que les adversaires que nous avons à affronter. Il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas demain ceux qui, alors je vais vous le dire comme nous le disons, ceux qui nourrissons les Français. Vous pourrez le dire autrement, mais nous, il n'y a aucune raison que demain, ce ne soit pas nous qui nourrissons les Français. D'ailleurs, vous le verrez au fur et à mesure des discussions qu'on aura, nous sommes les seuls capables de vous nourrir. Le modèle industriel, il ne vous nourrit pas. Donc nous sommes les seuls capables de vous nourrir. La terre doit nous revenir. C'est ça qu'on va vous dire ce soir, c'est ça qu'on est venu vous dire. Et pour vous le prouver, en quelque sorte, on a commis ce petit bouquin.
Tu parlais du constat qu'avait fait, au fil de sa démarche de diffusion, de colportage des technologies paysannes, ce constat de ce que, parmi les usagers des machines diffusées par l'atelier paysan, il y avait une proportion significative de gens qui semblaient, finalement, qui instituaient un rapport assez consumériste, finalement, vis-à-vis de ce qui était perçu comme une offre, finalement, de l'atelier paysan, avec une faible propension à participer de l'amélioration, parce que l'idée, hein, de la diffusion sous forme de licence libre, c'est l'idée aussi que les usagers enrichissent l'outil qui est ainsi diffusé par des remarques quant à l'adaptation de l'outil à leurs conditions pédoclimatiques particulières, la nature du sol, le mode de production particulier dans lequel ils sont engagés. Et voilà, il y avait régulièrement, pas forcément systématiquement, les retours espérés par l'atelier paysan après la diffusion de ces machines. Ça, Jean-Claude l'a évoqué. Puis, bon, au plan de la démarche dans son ensemble de l'atelier paysan, tu disais en effet qu'on forme un millier de paysans environ par an, alors non seulement au travail du métal, à l'autoconstruction, à l'utilisation de plans, à l'ajustement de ces machines, mais aussi à la conception, puisque on répond à des groupes de paysans qui se rassemblent pour concevoir ensemble des machines à partir d'une problématique technique particulière, et on accompagne avec nos ingénieurs formateurs cette démarche d'innovation qu'on qualifie d'innovation ascendante, d'ingénierie participative pour créer de nouvelles machines de toutes pièces. Donc oui, on forme un nombre significatif de paysans, on est très satisfait, mais pendant qu'on en forme 1000, il en disparaît 10 à 15 000 tous les ans. Et vers la fin des années 2010, là, en levant le nez, hein, de notre copie, en quelque sorte, et en regardant autour de nous, dans le milieu des organisations de défense ou de promotion de l'agriculture paysanne, de l'agroécologie, bon, il a fallu se rendre compte que notre lot à nous, hein, cette impuissance qui nous semblait commencer à constater, hein, relativement à notre difficulté, à enrayer les logiques dominantes, hein, de d'éradication des paysans, notamment, ben que finalement c'était le lot de beaucoup d'autres organisations, de beaucoup d'autres alternatives finalement, puisque c'est comme ça que généralement on qualifie le milieu critique de l'agriculture industrielle et du monde de l'industrie en général. Là, parmi les exemples qui ont confirmé que cette impuissance n'était pas celle seule de l'atelier paysan, mais celle d'autres démarches collectives, on peut citer par exemple le travail extraordinaire, hein, de Terre de Liens sur la question de l'accès au foncier depuis une vingtaine d'années. Il se trouve que Terre de Liens, toute pertinente que soit sa démarche, n'a réussi en 20 ans à arracher à l'agriculture industrielle que l'équivalent de ce que de ce qui est artificialisé en une semaine actuellement. des terres agricoles artificialisées d'une manière ou d'une autre. De la même manière, l'agriculture biologique ne cesse de conquérir de nouvelles surfaces, et c'est heureux, bien évidemment, puisque non seulement elle libère de l'emprise agrochimique des surfaces agricoles de plus en plus importantes, mais en plus, en ayant historiquement créé un segment de marché finalement distinct de l'offre dominante et de la logique de compétition qui y règne, l'agriculture biologique a sauvé un grand nombre de paysans, et parallèlement toute une série de savoir-faire dont ils étaient encore dépositaires, et donc a créé un espace où il était même possible de créer de nouveaux savoir-faire. Ça, c'est indéniable. Mais pour autant, l'usage de pesticides n'a cessé d'augmenter, et ne cesse encore d'augmenter. Toujours. On pourrait citer de nombreux exemples comme ça. On peut aussi mentionner l'intensité du débat public sur toutes les questions agricoles et alimentaires depuis une quinzaine d'années. Le débat public en France est extrêmement nourri, extrêmement riche, et relativement lucide des effets délétères de l'industrialisation de l'agriculture sur notre alimentation, sur notre environnement, sur notre économie, etc. Il y a même une vague relativement importante d'installations de jeunes en agriculture depuis le milieu des années 2000, comparable à ce qui s'était produit dans les années 70, de jeunes issus, enfin non issus du milieu agricole, hors cadre familial, comme on dit dans le jargon agricole. Et tout ça, toute riche que soient ces alternatives, tout soucieux que soit le débat public d'élucider les raisons et de combattre les différentes manifestations de l'industrialisation de l'agriculture, le rouleau compresseur de l'industrialisation de notre alimentation ne cesse d'avancer. La base sociale de notre production agricole et alimentaire ne cesse de se restreindre. L'autosuffisance du pays en termes d'alimentation ne cesse de s'effondrer. On externalise de plus en plus de production. Je citais les fruits et légumes, mais on pourrait en citer d'autres. Et finalement, il y a un véritable hiatus entre le souci de la société française pour son agriculture et son alimentation et les réalités concrètes qui se déploient sous nos yeux. Et c'est l'objet finalement, c'est l'entrée à partir de laquelle on a écrit ce livre, en commençant par essayer de lister et de creuser un peu différents verrous, différentes dimensions particulièrement problématiques, différents verrous à la diffusion et à la généralisation d'expérimentations telles qu'on les fait dans le milieu des alternatives, à l'atelier paysan, à Terre de Liens ou en agriculture biologique ou ailleurs. Et c'est ce à quoi est consacré le premier chapitre ou le deuxième, le deuxième chapitre.
Dans le réseau des CIVAM, puisque c'est de là qu'on est parti, en tout cas pour ce qui me concerne, et je pense même qu'on peut dire dans le réseau des organisations professionnelles agricoles, la conscience qu'il y avait un rapport, ou qu'il y a un rapport entre l'agriculture et l'alimentation, n'existait pas avant 2010. Elle existait certainement dans la tête de quelques-uns des adhérents du réseau, comme elle existait certainement dans la tête de certains des confédérés, mais dans aucune des organisations professionnelles agricoles que je fréquentais, il n'y avait jamais mis sur la table le rapport entre l'agriculture et l'alimentation. Quand on s'est trouvé à faire une enquête et en face de personnes qui mangeaient, pour essayer de comprendre ce qui arrivait aux gens qui mangeaient, on s'est rendu compte qu'eux étaient dans une totale ignorance de la manière dont nous vivions et nous produisions. Et le rapport n'était jamais ou pas souvent fait entre la nourriture et l'agriculture. Donc ça, c'est le paradoxe initial de cette recherche sur l'alimentation, qui est une des racines de ce livre-là, qui a été fait il y a 10 ans, une dizaine d'années. Prétendre à une agriculture durable, comme le faisait le réseau CIVAM, et qui le définissait très bien, et qui a créé des diagnostics de durabilité de l'agriculture, qui sont enseignés, et qui ont montré par les statistiques que quand on s'engage dans ces voies-là, on fait partie des revenus supérieurs dans les branches professionnelles comme le lait ou les céréales, tout ça, ça amène à se prétendre vertueux. On a une certaine vertu agricole qu'on revendique souvent, à mon avis, beaucoup trop, mais parce que c'est difficile d'en changer quand vous faites beaucoup trop. On a le droit d'être fier de ce qu'on fait, il faut juste être modéré dans ses propos. D'autant plus que, justement, à la bascule de 2010, c'est les lois de modernisation agricole, enfin la loi Le Maire, là, au cours de la mise en place de cette loi de modernisation agricole, on a vu rentrer dans le code rural une activité qui est l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, à la demande du syndicat majoritaire, a été rentrée dans le code rural comme une activité agricole. On est compte, quoi. L'aide alimentaire, pour nous, en tout cas, on ne s'était jamais trop interrogé sur ce que c'était, mais quand on s'interroge, c'est l'échec d'une politique agricole. On se dit ça comme ça, quoi. L'aide alimentaire, c'est qu'on n'a pas réussi notre coup, quoi. Quand tu dois filer de la bouffe à quelqu'un qui n'a pas eu les moyens d'en acheter, c'est que tu as au moins, peut-être, un petit peu participé au fait qu'il n'ait pas eu les moyens de l'acheter. Et en tout cas, c'est toi qui as fourni la bouffe, tu dois au moins avoir cette conscience-là. Donc on s'est dit, mais comment ça se fait qui rentre ça comme une activité agricole, et on est parti à essayer de comprendre ce que ça voulait dire. On est parti à la découverte de l'immense continent qu'est l'aide alimentaire en France. L'aide alimentaire en France, c'est aujourd'hui, après Covid, alors 3,5 millions en 2010, 5,5 millions en 2017, et aujourd'hui, sans doute, 7 millions de personnes qui ont besoin quasi quotidiennement de l'aide alimentaire. Une valeur économique estimée sur de 1,5 milliard avant le confinement. Parce que depuis, il n'y a pas eu de chiffres actualisés. Les chiffres 7 millions et 12 millions de personnes en précarité alimentaire, c'est les chiffres actuels du ministère des Affaires sociales. Mais la valeur économique de l'aide alimentaire, du marché de l'aide alimentaire en France, c'est 1,5 milliard. Alors 1,5 milliard d'euros par an. Pour vous donner l'importance de ce 1,5 milliard et l'importance pour nous de ce 1,5 milliard, le revenu colligé des fermes France, des fermiers de France, donc le revenu de la ferme France, il est de 9 milliards d'euros. D'ailleurs, les aides agricoles qui nous sont versées directement par l'Europe, c'est-à-dire les primes PAC versées directement dans les revenus des paysans, sont aussi de 9 milliards d'euros, ce qui est un des paradoxes de toute cette affaire. Mais 9 milliards d'euros, voilà, ça, c'est le revenu de la ferme France. La valeur du produit, ça doit être de l'ordre de 75 à 80 milliards d'euros, quelque chose comme ça. 9 milliards, c'est le revenu de la ferme France, inégalitairement, mais très inégalitairement, évidemment, partagé. Et ce 1,5 milliard de valeur de l'aide alimentaire, il est structurant du modèle de production. C'est ça. Vous voyez, quand, ça serait 30 millions. On pourrait dire, ben voilà, c'est les à côté de la production, c'est ce qui tombe, c'est les scories de la production. Mais là, pas du tout. Là, aujourd'hui, l'agriculture industrielle, s'il n'y a pas l'aide alimentaire, ne fonctionne pas. Donc l'agriculture industrielle, pour aller très vite, a besoin des pauvres. Et ça tombe bien, puisqu'elle crée des pauvres. Et elle va en créer d'autant plus qu'elle détruit de l'emploi. Et plus vous industrialisez, plus vous détruisez de l'emploi. Plus vous détruisez de l'emploi, plus vous détruisez les revenus. Plus vous détruisez les revenus, plus vous creusez la pauvreté. Alors la pauvreté, c'est pas celle immédiate que vous avez dans le village de la maison d'à côté, en face, mais de manière générale. Et plus vous créez de pauvreté, plus vous avez besoin d'aide alimentaire. Et ça tombe bien, parce que vous voyez, l'équilibre se crée comme ça. Voilà ce qu'on a découvert en termes d'alimentation, que nous étions, faisions partie de ce vaste trafic, parce qu'on pourrait le dire comme ça. On pourrait faire un roman, on pourrait l'écrire statistiquement, c'est froid, mais ça casse, c'est violent. On pourrait aussi en faire un roman, je vois très bien tout d'un coup en vous le disant, là, de la manière dont c'est du trafic, c'est un vrai marché. Il y a le Secours Pop, il y a la Banque Alimentaire, il y a la Croix-Rouge, il y a le Resto du Cœur. Ça, c'est les quatre grands, les quatre branches, la famille. On pourrait faire une mafia comme ça, les décrire comme ça. Alors, attends, précaution. Je n'ai pas demandé avant, et ça, il faut que je le fasse à chaque fois, parce que sinon, il y a des problèmes. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont... Alors, vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais si, en tout cas, ce n'est pas une question. Non. S'il y a parmi vous des gens qui ont dépendu de l'aide alimentaire ou qui sont des bénévoles à l'aide alimentaire, qu'ils sachent que quand je parle comme ça et quand nous parlons comme ça, nous ne parlons pas des individus. Nous parlons de la structure dans laquelle s'exerce cette violence-là, parce que c'est d'une violence dont on parle. Mais que ce soit bien clair et précis, que s'il n'y avait pas les 200 000 bénévoles qui font de l'aide alimentaire aujourd'hui, qui distribuent l'aide alimentaire aujourd'hui, s'il n'y avait pas ces 200 000 bénévoles dont on estime que le travail représente une économie de 600 millions d'euros pour l'État tous les ans. Vous voyez, donc c'est pas non plus des bricoles tout ça. S'il n'y avait pas ces bénévoles-là, et on ne sait pas s'il va continuer à y avoir ces bénévoles-là, le système industriel s'effondrerait à l'instant même, et là, il y aurait problème de graves difficultés d'alimentation pour une grande partie des Français. Donc, voilà, on est en train de critiquer une structure, y compris d'ailleurs une structure comme le Secours populaire, parce que ça me reviendrait à moi de le faire, mais pas des individus. Des individus qui les mettent en œuvre, et heureusement qu'ils sont là, parce que c'est de là que nous connaissons aujourd'hui tout ça. Et de cette question de l'aide alimentaire, évidemment, on fait constat d'une énorme violence. Il y a même des thèses universitaires qui, depuis, nous ont décrit cette violence avec des termes très précis de ceux qui reçoivent l'aide alimentaire, la violence que ça représente, mais aussi de ceux qui la distribuent. Ça représente pour eux une violence à terme de prendre la place de l'État dans le maintien de l'ordre, parce que c'est ce que font les bénévoles. Et leur engagement, qui au départ est très humaniste, transforme assez vite en une sale besogne de maintien de l'ordre. On l'a interviewé un certain nombre, on sait qu'il y a des fois, c'est extrêmement difficile. Et cette aide alimentaire-là, nous, quand on a découvert ça, on s'est dit naïvement, mais si on y mettait un peu de bio et un peu de circuit court. Et on a fait une première proposition comme ça au ministère en 2012, au moment où le FOL est arrivé. Et on nous a dit tout de suite, restez dans vos coins avec vos petits magasins et vos marchés fermiers, votre agriculture paysanne, et puis ne touchez pas à ça, ça c'est pas votre rayon. Bon, on a été un peu... On n'a pas compris pourquoi exactement tout de suite. On était un peu fâchés, puis on est... Voilà. Mais en même temps, heureusement qu'on nous a proposé des choses comme ça, parce que améliorer l'aide alimentaire en mettant du local, du bio et tout ça, ce n'est que mettre un nouveau nom à la violence. La violence en bio ou la violence locale, ça reste de la violence. Vous voyez, que vous les preniez par un bout ou par l'autre, ça revient à ça. Et on a longuement discuté de ça avec les institutions de l'aide alimentaire. Ce qu'elles font est indispensable, mais comme tout à l'heure ce que vient de décrire Manu, autant c'est indispensable, autant c'est absolument impuissant à régler aucun problème. Et avec les conséquences que je vous décrivais sur la violence exercée qui, à long terme, crée du ressentiment dans la société française. Et avoir ce ressentiment à travers la nourriture que nous produisons, ça a été quelque chose d'assez violent pour nous de découvrir une chose pareille. Donc on s'est demandé, alors en plus, au-delà de l'aide alimentaire qui donc est violente, il y a une insatisfaction alimentaire qui concerne, l'année dernière, au mois d'octobre, enquête du Secours populaire, 26 millions de Français déclarent ne pas manger ce qu'ils souhaitent. Là, on est au-delà de l'insatisfaction monétaire. On est face à des gens qui ont un revenu, un salaire, qui font leurs courses, achètent la nourriture qu'on leur propose, mais ne choisissent pas, ne mangent pas ce qu'elles veulent, parce que le modèle industriel ne leur propose pas ça. Le modèle industriel ne nous propose pas de la nourriture, il nous propose de l'alimentation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc cette insatisfaction alimentaire, à laquelle il faudrait ajouter, mais nous ne sommes plus très nombreux, donc ça ne va pas faire beaucoup de millions, l'insatisfaction des producteurs de cette nourriture, parce que le milieu est en train de prendre cher aussi là-dessus, la profession est en train de prendre cher. Donc on est parti essayer de comprendre comment manger les Français qu'on ne voyait pas devant nos étals. Nous, on voit à peu près 5, quand on fait de la vente directe, on voit à peu près 5% de la population française. C'est important de comprendre comment se nourrissait ce qu'on ne voyait pas. On a fait ce travail de recherche. Pendant ce temps-là, à l'atelier paysan, il y avait une interrogation très forte qui se menait sur le rôle le rôle de la machine dans la disparition des paysans, historiquement, faire le rapprochement. Et ça non plus, ça n'avait jamais été fait. Aucun d'entre nous, aucune des organisations professionnelles auxquelles nous avons adhéré au cours de nos existences, n'avait jamais réellement pris en considération la machine comme un problème. Et du coup, dans ces 10 années-là, et la Confédération paysanne, d'une certaine manière, a été un peu un des germes de la... Ces deux critiques-là, l'agriculture industrielle ne nourrit pas les Français, et la machine participe inexorablement à la disparition de la paysannerie. Rassembler les deux, voilà, c'est ce qu'on essaye, c'est les deux racines principales de ce livre, et c'est l'originalité de ce livre-là.
C'était la première des deux parties qui composent la rencontre avec le collectif L'Atelier Paysan. à propos de leur livre manifeste « Reprendre la terre aux machines ». Pour retrouver le podcast de cette émission, connectez-vous sur www.lesnouveauxterriens.fr.